les logements deviennent volontairement insalubres et manquent d'entretien. Beaucoup d'habitations sont vétustes, mal isolées, avec des problèmes de chauffage et d'humidité. Les rénovations promises tardent et ne sont pas à la hauteur des besoins. La gentrification, c'est lié à une stratégie. Donc volontairement, on va laisser s'user, s'abîmer des logements. C'est quoi la condition de vie pour l'instant dans certains logements? Et pourquoi vous, avec le CPES, vous réclamez une rénovation urgente?
Ah bah c'est en fait là, actuellement un grand problème dans la plupart des habitations, des logements en fait du Mirail, c'est sur la question du chauffage, des isolations, également des ascenseurs. Mais d'abord sur la question des isolations, en fait il faut savoir une chose, c'est que bah les gens en fait tout simplement l'hiver ils ont très froid et l'été très chaud. La faute à quoi? La faute faite à notamment l'explosion d'AZF en 2001 qui a fait littéralement voler en éclats la plupart des vitres du Mirail, qui était un quartier parmi les plus exposés directement au site d'AZF. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y aurait dû avoir une réelle rénovation à l'époque. Les gens, en fait, y a des gens qui sont restés avec des mois entiers avec des couvertures de plastique à la place des vitres. La rénovation, elle s'est faite de manière catastrophique à l'époque. Et notamment, on le sait aujourd'hui, c'est pas connu. Mais en fait, il y a eu 1 milliard d'euros qui a été attribué, qui devait être attribué à la rénovation du Mirail à cette époque, qui a été détourné par la mairie de l'époque. Et donc, qui ont employé des sous-traitants qui, pour beaucoup, ont fait le travail avec des matériaux et une qualité d'ouvrage qui était plus que très moyenne. Et aujourd'hui, ça, c'est des problèmes qui persistent. Et en plus de ça, les bailleurs sociaux, qui sont normalement dans l'obligation légale de tous les 7 ans de faire les travaux de rénovation nécessaires, eh bien, ils se refusent à faire ces travaux de rénovation. Ils se refusent à rénover, notamment, je pense, à la lutte qu'on a gagnée là, à Oriacon, 15 étages. À la base, il y a un habitant qui, notamment, était un des fers de lance dans cette lutte pour la rénovation, il n'a pas lâché face aux bailleurs sociaux. Il y avait notamment un logement au-dessus de lui où il avait eu toutes les rénovations qu'il fallait. Il n'y avait plus aucun problème, double vitrage, chauffage, ça marchait très bien. Mais en fait, c'était une phase test. Notre camarade, il a dit « mais moi aussi, je vais être en test si c'est ça ». Les bailleurs, ils ont dit « non, mais vous imaginez si on devait le faire pour tout le monde ». Si on le fait pour vous, on doit le faire pour tout le monde. Eh bien, nous, c'est ce qu'on veut. Nous, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on a réussi à gagner dans un immeuble. Mais on le veut partout, en fait. Parce qu'en fait, les bailleurs sociaux, au Mirail, c'est des vrais escrocs. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. En fait, ça date depuis 1980. Je vais vous dire, en gros, depuis que, la crise dans les années 80, les bailleurs sociaux, en fait, face aux personnes qui étaient en difficulté financière, ils ont choisi de certains immeubles où en gros les gens qui parfois avaient des retards de paiement, en fait ils ont concentré toutes les personnes dans certains bâtiments qu'ils ont laissé volontairement pourrir en fait. Donc leur stratégie de faire volontairement pourrir les habitations, ça date pas d'hier, c'est une politique, c'est la leur, celle de bailleurs escrocs, comme une étude l'a révélé récemment, un tiers des bailleurs le sont en fait en France. Et ça, au détriment des conditions de vie des habitants de nos quartiers. On les appelle pour faire des rénovations. Ils vont nous dire « Non, vous, madame Intel, vous êtes punie. Il y a 3 ans, vous nous avez embêté. On va pas vous le faire. » Des cas où, carrément, les BR, ils menacent les gens. Ou alors, si les gens ils sont un peu trop insistants, ils disent « Vous avez qu'à partir. » Et en plus... ils ont des liens évidemment avec la mairie et tout.
Arrêt! Arrêt! Du chantier de la honte! Arrêt! Arrêt! Du chantier de la honte!
En tout, il y a un projet de démolition qui concerne à peu près, je crois, 1400 logements. Il s'agit donc des bâtiments de différents bailleurs, Habitat Toulouse et les chalets. Il y en a deux, là. Il y en a un, celui-ci, ils ont commencé le chantier de démolition, alors qu'il reste encore 10 habitants, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui ici. On n'était pas dans une relation de force avec les bailleurs, nous on a toujours travaillé en partenariat, c'était un bailleur social, on n'était pas dans cette relation-là, donc on a été surpris par cette façon de procéder. On s'est décidé à donc porter cette affaire en justice parce qu'on trouve vraiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a une injustice. Il y a des, même si les permis ont été effectivement obtenus dans les règles, on a l'impression qu'ils ont oublié de dire qu'il y avait encore des habitants. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. On est complètement dans quelque chose d'innovant, mais d'innovant dans l'inhumain.
Sans démolition.
On a demandé à être reçu à la mairie de quartier par le maire de quartier qui a refusé de nous recevoir. Enfin, on avait le rendez-vous à 14h pour la marche, il nous a prévenu à 14h15 qu'il ne nous recevait pas. Voilà, bon, c'est sa méthode, c'est une méthode, c'est une façon de faire.
Nous n'avons jamais vu une telle situation. Commencer des travaux alors que des familles habitent encore l'immeuble, paient leur loyer et leurs charges. Ça les met en danger. C'est une violence physique et psychologique terrible. Pour une société qui nous dit qu'elle met l'humain au cœur de l'habitant, on voit plutôt des méthodes d'une rare violence et d'un grand mépris. Ces familles n'ont pas eu de proposition de relogement valable qui correspondait à leur situation familiale et à leurs vœux. Et pourtant, les chalets font comme si tout allait bien.
Aujourd'hui, on ne peut pas prendre des décisions qui ont des conséquences négatives sur la vie des habitants ou sur la planète, sans concertation, sans prendre en compte des gens directement concernés. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à la Rainerie. C'est un projet qui passe en force contre les habitants des immeubles concernés. Ce n'est pas acceptable.
L'adjoint au maire nous avait dit il y a 2 ans qu'il fallait changer les têtes. C'est aussi une pensée profonde sur qui sont les habitants de la ville. C'est-à-dire quand on dit à 3 femmes qui étaient reçues au Capitole, 2 femmes d'origine maghrébine et 1 femme antillaise, et il leur dit froidement, il faut changer les têtes.
Derrière, ils disposent maintenant d'une milice aussi, les bailleurs sociaux, qui s'appelle le GIT. Donc il faut les voir, hein, au Mirail, ils sont habillés en paramilitaires, et ils sont juste là pour emmerder les habitants, quoi. La problématique aussi, c'est la question des ascenseurs. Dans chaque bâtiment, il y a au moins un ascenseur, si ce n'est pas tous, qui sont en panne. Et ça dure des mois, même parfois plus d'un an, en fait, à être réparé. Et les bailleurs, ils s'en foutent. Concrètement, les personnes âgées, les personnes malades, les personnes en situation de handicap, comment elles font? En fait, il y a des gens, ils restent enfermés chez eux pendant des mois, des semaines. C'est ça la situation.
J'habite à Tintorlé. À 8e étage. Nous avons 4 ascenseurs. Et les 4 ascenseurs, comme on est plus de 200 familles, presque 300 familles, même les 4 ascenseurs, c'est difficile. Le matin, quand il y a les gens qui vont aller au travail, les enfants qui vont aller à l'école, on fait la queue. Parce que il y a tout le monde qui passe en même temps.
Les personnes âgées, les enfants, c'est ceux qui ont les petits-enfants. Et les femmes enceintes, personne ne pouvait venir, ne pouvait descendre. Avec la poussette, elle ne peut pas descendre du 9e ou du 10e étage avec un bébé et la poussette. Donc les gens, pendant ce temps, tout le week-end, pendant 4 jours, ils sont restés coincés chez eux. Est-ce qu'ils ont pensé à ces personnes-là?
Je ne sais pas pourquoi pour nous ça tombe. C'est tout le week-end. L'autre côté des 10, il y avait un ascenseur qui était tombé en panne pendant 6 ans.
Alors, une des explications, tu l'as cité tout à l'heure, ça peut être aussi la spéculation immobilière. C'est vrai que l'argumentation de mixité sociale est souvent utilisée pour justifier alors, les transformations, mais en réalité, il ne s'agit pas de donner plus de droits aux habitants et habitantes actuels, mais de les remplacer par des populations plus aisées qui auront accès aux logements privés et chers. C'est vraiment, on est un peu social versus privé là.
En effet, en fait, c'est exactement de ça qu'on parle, c'est social versus profit. Les bailleurs sociaux, ils sont absolument, ils ont sociaux que le nom. Derrière, en fait, à part causer des problèmes, voire intimider les gens, de la destruction du Mirail, en plus d'être une question politique, c'est une question de spéculation. Toulouse s'est développée ces dernières années, ces dernières décennies, entre le moment où le Mirail a été construit et aujourd'hui, la valeur du foncier, en fait, il a pris une nette augmentation. Et c'est-à-dire que, en fait, là, ce qu'il voudrait faire, détruire les logements sociaux, récupérer le foncier pour reconstruire des bâtiments, des destinations de populations nettement plus aisées. qui ne sont pas des logements sociaux. Quand ils disent qu'ils vont construire et tout, c'est pas des logements sociaux. Le Mirail, c'est un quartier à 10 minutes du centre-ville, il y a un lac, c'est joli. Les pauvres, on va pas leur laisser en fait, c'est plus possible. Nous, on a des gens qu'on veut faire venir de Paris, de je sais pas d'où. C'est ça le nouveau Toulouse pour eux. Et donc les classes populaires, et ils le disent eux-mêmes dans leur communication, ça doit être en dehors de la ville. Donc ils envoient les gens à la campagne. Il y a même des gens qui se font reloger on a des cas jusqu'à Tarbes, Perpignan. C'est n'importe quoi. Les gens, ils changent de département. Donc voilà la situation. Au niveau de la spéculation, c'est qui y a intérêt ? C'est la mairie. Ensuite, dans le projet, y a investisseurs, promoteurs qui... prennent un petit pactole aussi, les banques, les grands patrons du BTP, et donc en fait tout ce beau monde, ils touchent un pactole dans l'affaire, ils touchent un pactole sur au détriment de nos vies en fait, au détriment de tous les liens sociaux existants dans notre quartier. Ça ils l'ont déjà fait à Ampalo, ils l'ont déjà fait à Bordeaux-Rouge, ils l'ont déjà fait dans nombreux quartiers en fait à Toulouse. Il y a une gentrification qui touche d'ailleurs pas seulement les quartiers dits populaires, mais aussi des zones un peu plus populaires de la ville. En fait, leur but, c'est de gentrifier tout Toulouse à terme. Cognard, qui est notre maire de quartier, c'est aussi celui qui s'occupe de la politique de la ville à la mairie. Et c'est lui qui se vante de tout ce qu'ils ont fait, notamment, je pense fortement à Ampalo, parce que les habitants d'Ampalo, ils l'ont en mémoire. Aujourd'hui, il y en a même pour ceux qui ont réussi à rester. Les loyers augmentent, même s'ils sont toujours dans les HLM, les loyers augmentent. Et le quartier, il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était avant. Et ils se vantent de vouloir faire la même chose à La Rainerie et à Bellefontaine. Sauf que nous, on n'est pas un quartier de quelques milliers d'habitants, on est un quartier de 35 000 habitants. Et donc, dans leur programme même de destruction du Mirail, aujourd'hui, ils sont bien emmerdés parce qu'ils ne savent pas où reloger les gens. Ne serait-ce que si on parle de Grand Dindy, de messagers, d'une partie de Poulenc, du Grand Goya et de Gluck, déjà sur la totalité de ces personnes-là qui ont déjà été relogées, ce qui représente des milliers de personnes, ils ne savent plus où reloger les gens. Il faudrait qu'ils reconstruisent un deuxième Mirail alors.
pour repousser aussi la population un petit peu plus loin, la forcer à partir, il faut changer l'image du quartier. Ça passe par une transformation de cette image. Dire là, par exemple, quand on demande aux gens ce que symboliquement peut représenter le Mirail, obligatoirement, c'est vu à travers, vite fait, la pauvreté, l'insécurité. C'est un peu ce qu'on ressort un petit peu comme cliché, en fait. Une nouvelle fois, quand tu es un peu à l'extérieur, tu te dis que ces politiques de rénovation urbaine vont être utiles, en fait. Toi, qu'est-ce que tu peux dire, puisque tu y vis, sur déjà les préjugés qui sont véhiculés sur ton quartier, et en quoi cette stigmatisation empêche les habitants-habitantes de vivre dignement et d'avoir accès simplement à leurs droits ?
Bien, en fait, tout ce projet... Comme je l'ai dit, en fait, c'est simplement pas un projet de rénovation, c'est un projet anti-peuple. C'est un projet contre nous, contre les habitants des quartiers, contre les habitants du Mirail. Et sur ce projet qui est teinté de plein de mots, il parle de mixité, de désenclavement, tout à fait n'importe quoi, en fait. Avec le CPES du Mirail, ce qu'on a commencé à faire, c'est on a lancé depuis plusieurs semaines les ateliers populaires d'urbanisme. Il se vante, l'État se vante d'avoir fait le projet de destruction actuelle du Mirail en collaboration avec les habitants.
Concertation, souvent.
Oui, c'est ça. Sauf que ce n'est absolument pas le cas, à aucun moment. Et ils s'appuient sur des choses qu'ils ont inventées, en fait. Derrière, nous, ce qu'on est en train de faire avec les ateliers populaires d'urbanisme, c'est avec l'ensemble des habitants mobilisés, avec des architectes, des élèves, des étudiantes architectes qui habitent au quartier, on est en train de construire un contre-projet au projet actuel du Mirail. Les idées, elles fusent. Mmh. Elles fusent de toutes parts, puisque c'est notre quartier. Et on est déterminé à construire un contre-projet par et pour nous. On a bien conscience de la nécessité de rénover le quartier. Et nous, ce qu'on veut, c'est un projet de rénovation du quartier. pas un projet de destruction. On y a réfléchi notamment sur les questions d'espace public, sur les questions de logement, sur les questions d'équipement sportif, associatif, public. On a la volonté de porter ce projet de manière professionnelle devant l'ANRU, devant l'Agence nationale de rénovation urbaine, pour leur présenter ce qu'ils se vantent dans leur communication, un véritable projet construit par les habitants.
Je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment pouvoir contre pouvoir et information contre information. Parce que souvent, ça s'accompagne en fait par une autre stigmatisation qui est le discours médiatique en fait, qui renforce l'image d'un quartier difficile, n'évoquant que les faits divers, en occultant les solidarités de la vie locale.
Et donc c'est à nous de décider de l'avenir du quartier. C'est ça qu'on met au centre du débat. Et ces gens-là, Cognard, Moudenc, c'est des gens qui sont contre le peuple, qui volent le peuple. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que Moudenc lui-même était visé par des affaires de détournement d'argent ou de travail fictif. Enfin, bref, ça n'étonne personne. Nous, on sait comment ils font, quelles pratiques ils ont dans nos quartiers. C'est pour ça notamment que le CPES, on est un collectif indépendant, incorruptible et inarrêtable. Parce que tout simplement, nous, on s'autofinance par nos maigres moyens, qui repose principalement sur notre détermination. Mais voilà, les tracts, tout ça, on s'autofinance. Les associations, pour parler d'elles au quartier, pour beaucoup, sont prises à la gorge par la mairie. Et notamment, c'est ce qu'on appelle le clientélisme, font face à du chantage lorsqu'ils prennent des positions sur des choses qui sont contre la politique de la mairie. Notamment à l'association Rennerie-Miroir, qui est le journal de notre quartier, un journal associatif, apolitique, qui parle tout simplement de l'activité, l'activité quotidienne qui peut avoir lieu dans le Mirail. Ils se sont vus quand même couper la moitié de leur subvention, tout simplement parce qu'ils ont fait quoi ? Dans un article, ils ont fait un sondage aux habitants, qu'est-ce que vous pensez des démolitions ? Eh bien, 9 habitants sur 10 ont répondu qu'ils étaient contre. Et la mairie a dit que c'était un article politique qui allait contre la politique de la mairie et que donc ça justifiait qu'ils coupent la moitié de leur subvention parce qu'ils n'allaient pas payer pour quelque chose qui irait contre leurs idées. Quoi.
Le terme « nettoyer » au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela.
Le mot « nettoyer »,
et alors,
le communautarisme progresse-t-il en France ? Quelles en sont les causes et comment lutter contre ce repli identitaire ?
Il faut ressortir le Karcher, il a été remisé à la cave. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers.
Et il me semble qu'effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des territoires perdus de la République. Tout ce qui représente l'État est caillassé, canardé.
Emmanuel Macron compte célébrer les valeurs de la République contre les forces obscurantistes et les replis communautaires.
Justement, je rebondis là. Tout à l'heure a été évoqué la communication et le relais médiatique. Ça fait quoi quand tu vis dans des quartiers et que la seule image renvoyée par évidemment la presse locale, mais même nationale, c'est uniquement quand il se passe des faits divers en fait. Il ne faut pas nier qu'il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, mettre la loupe et le zoom uniquement là-dessus, c'est complètement déséquilibré. Et c'est aussi, ça participe à un point de vue et une idéologie, quoi.
Mais tout à fait. Mmh. Et ça, là-dessus, je vais vous dire une chose. Nous, au Mirail, on se démène en fait, pour essayer de faire parler de ce qu'on vit en fait. Grande partie des choses qui sont vues et vécues au Mirail ne sortent pas du quartier, et ça de manière volontaire, puisque la mairie, on le sait, elle filtre au niveau médiatique ce qui sort ou ce qui ne doit pas sortir. C'est aussi une nécessité pour nous de développer en fait, des médias qui sont des médias alternatifs en fait, que nous notamment avec le CPS on a l'intention, là c'est à partir de cette année, de faire un journal trimestriel. Et puis merci également à votre radio de nous donner la parole, parce que voilà, c'est bien trop rare en fait. Les médias parlent en effet, comme vous l'avez dit, principalement du Mirail quand il y a des faits divers. Je sais qu'il y a un journal, il me semble son nom c'est L'Empaillé, j'ai vu qu'ils avaient fait une étude où ils s'étaient amusés à éplucher peut-être les 10 000 articles sur les 15 dernières années qui parlaient du Mirail, d'un certain journal qui s'appelle La Dépêche, et qui...
un petit journal et un fanzine local.
C'est ça. À 60%, en gros, 70%, c'est des articles négatifs, quoi. À Toulouse, enfin, même, enfin, les gens ont une image déformée, du coup, enfin, de ce qui est la vie au Mirail. C'est trop bien, le Mirail. C'est le paradis, le Mirail.
Ici, les tours deviennent Mirador. Crois pas que le Mirail dort.
Pour nous qui habitons, c'est un très bon quartier. Et comme je l'ai dit, en fait, tout à l'heure, les problèmes sociaux qui peuvent avoir lieu, c'est le fait des politiques, en fait. C'est pas la fête des habitants.
Ici, les tours deviennent.